très apprécié. Puis manquez pas son dossier hein, du point de presse un peu plus tard à l'émission On en jase. Entrevue qui était attendue, entrevue qui est un peu surréelle parce qu'on s'en va près du golfe Persique, on s'en va jaser à quelqu'un d'ici qui travaille dans des gros cargos, du moins qu'il les coordonne, il dira lui-même ce qu'il fait, mais c'est deux navires de la marine marchande québécoise qui sont coincés dans le golfe Persique en pleine guerre avec le Moyen-Orient. Donc, vous le savez, il y a plein de navires qui ont été bombardés, autant du côté de l'Iran que des États-Unis. Et on se vante de ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand t'es pris dans le détroit d'Ormuz puis que toi, tu veux juste faire ton commerce, mais que t'es vraiment dans une situation où peut-être ta sécurité est en jeu? Mais on va l'en jaser avec Serge Le Guellec, qui est représentant du groupe Desgagnés. En fait, il est conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe Desgagnés. Bonjour, M. Le Guellec.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Merci d'accepter l'entrevue. De ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, le Rosaire a dégagné et le Miena a dégagné son prix, les deux navires transporteurs de colis dans le golfe Persique. C'est ça qu'on comprend?
Bon, on comprend qu'on a présentement deux navires qui opèrent dans le golfe Persique, qui sont en attente présentement. Ils sont à l'ancrage. Ils attendent pour aller à quai, pour aller décharger leur cargaison dans un port qui, dans un des cas, est situé en Arabie Saoudite et l'autre aux Émirats Arabes Unis. Alors, on est en attente présentement pour aller décharger nos cargaisons.
Au niveau économique, ça ressemble à quoi ce qui se passe pour vous, pour l'entreprise? C'est-tu des pertes énormes? Est-ce que vous avez peur de perdre cette cargaison-là? C'est quoi les impacts économiques?
Bon, on n'est pas là du tout. C'est pas le schéma de réflexion qu'on a présentement. Le schéma de réflexion qu'on a, c'est plutôt de se poser la question lorsque les cargaisons ont été déchargées à terre ou à l'un et l'autre des quais où l'un et l'autre des navires se trouvent. La question est plutôt de réfléchir à la façon avec laquelle les deux navires seront en mesure de quitter le golfe Persique, en présumant qu'il y aura à ce moment-là un protocole qui permettra aux navires de transiter à travers le détroit d'Ormuz de façon sécuritaire. C'est vraiment ça la question principale qui nous préoccupe présentement. Le protocole n'est pas connu pour les situations que vous avez évoquées. Il suffit de préciser quand même que les navires, là où ils sont présentement, ils sont du côté occidental du golfe Persique, sont un peu plus loin de l'action, là, pas mal plus loin en fait, que le détroit d'Ormuz, où là, ça chauffe un petit peu plus.
OK, donc, somme toute, assez protégés, bon, par le territoire plus occidental du détroit.
Oui.
Mais on nous disait qu'il y a près de 20 000 marins, 15 000 passagers qui sont pris dans le golfe Persique au cœur de cette guerre-là au Moyen-Orient. Vous, quand vous évaluez le nombre de marins et de gens qui travaillent sur ces gros cargos-là, on est à combien de personnes? Est-ce que c'est des Québécois?
Non, c'est un équipage international. Pendant l'année, chez Desgagnés, il y a comme deux temps. Il y a un temps où on est très actif au Canada et dans l'Arctique canadien. Alors, une montée en puissance avec des équipages canadiens. Et puis, lorsque la saison dans l'Arctique est complétée, un bon nombre de navires cargo général sont déployés partout à travers le monde, sur toutes les mers du monde. Et à ce moment-là, on emploie des équipages internationaux. Alors, pour nous, sur nos navires, présentement, on a à peu près une trentaine de gens qui œuvrent en tout et partout là, sur les navires, et ce sont ces gens-là qui sont nos préoccupations. Puis je vous rassure, ces gens-là, on leur parle régulièrement, on est en contact fréquent avec le commandant de l'un et l'autre des navires.
C'est la bonne nouvelle.
On peut effectivement comparer nos notes sur l'évolution de la situation. On s'occupe bien de nos équipages. Et vous avez peut-être entendu parler de jamming dans la région, mais fort heureusement, pour l'un et l'autre des navires, les équipages sont en mesure de contacter leurs familles puisqu'ils ont accès à un réseau Internet via Starlink. Alors,
okay.
Les conditions, de façon générale, à bord de nos navires, le profil de risque est évidemment plus élevé, c'est normal, on le comprend tous. Mais de façon générale, le moral est très bon à bord des bateaux.
OK. De ce qu'on comprend, vos navires, donc, québécois, de marine marchande québécoise, sont pris, ils sont en attente, c'est plus une situation de latence à ce niveau-là.
Oui.
Mais la seule façon de passer, vous nous l'avez très bien dit, c'est de passer par le détroit d'Ormuz. Là, ça pourrait brasser. Mais avez-vous été, votre équipage, parce que vous n'êtes pas sur les cargos en ce moment, mais conscient de bombardement, est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être prises?
Bien, pour l'instant, encore une fois, puisque les navires, d'abord, sont à l'ancre, sont beaucoup plus loin que des ports comme tels, premièrement, et puis ils ne sont pas dans une zone où on a vu des activités militaires de part et d'autre dans les derniers jours. Donc, ils sont relativement à l'abri de ces activités-là, mais c'est très clair, comme vous le dites, qu'il faut rester aux aguets. Alors, il faut constamment regarder quelle est l'évolution de la situation un peu partout dans le golfe Persique pour s'assurer que les mesures qui sont déjà en place sont suffisantes ou il faut en adapter d'autres.
Puis si jamais on voudrait rapatrier, parce qu'on ne sait pas le conflit va durer combien de temps, si on veut rapatrier ces personnes-là éventuellement, c'est quoi nos solutions? Est-ce qu'on peut passer ailleurs que Détroit d'Ormuz ou c'est vraiment le seul chemin possible?
Bien, malheureusement, comme vous le dites, dans cette étendue-là, il y a juste une sortie et c'est à travers le Détroit d'Ormuz qu'on peut le faire. C'est un peu trop tôt pour évoquer ce scénario-là. On va voir. On voit déjà, il y a des signes précurseurs de mesures qui veulent se mettre en œuvre pour reprendre un trafic qui est sécuritaire à travers le détroit d'Ormuz. On n'en connaît pas les modalités, on ne connaît pas les échéanciers non plus. Mais je pense qu'on peut s'attendre là, dans les prochains jours à certains développements à ce niveau-là. Et on révisera à ce moment-là.
Mais c'est quand même une grosse affaire à gérer, j'ai l'impression, pour vous et également toutes les entreprises qui font du commerce et qui doivent passer par ces eaux-là dans le coin du Golfe Persique, parce qu'on a rapporté jusqu'à maintenant environ 7 incidents là, qui sont liés à des navires dans le détroit puis qui ont fait même des morts, des blessés. On ne peut plus considérer que peu importe où l'on est, on est en sécurité. On a vu des attaques du côté de Dubaï, entre autres, qui étaient complètement surréalistes juste parce que les Américains y étaient présents avec des infrastructures. Puis c'est comme ça qu'on se dédouane du côté de l'Iran. Est-ce que vous, qui êtes dans le domaine depuis quelques années, c'est la première fois que vous voyez une situation comme celle-là où c'est dur, en fait, d'être certain de quoi que ce soit?
Ben, je vous dirais, j'essaie de me souvenir la dernière fois, peut-être, sur la scène internationale, où on a eu des navires de marine marchande qui auraient été en attente dans une zone où il y a un conflit, puis il y a juste une porte de sortie. Puis la situation a un contexte qui est assez particulier, effectivement.
OK, donc c'est pas mal la première fois que vous le vivez, vous aussi. Vous dites que les passagers sont capables d'être en contact avec leur famille par Starlink. On remercie certains entrepreneurs pour cette façon-là de communiquer, mais y a-t-il quand même des manques au niveau de la nourriture, au niveau...
Non? Non, on s'en est assuré. C'est une des premières choses qu'on s'est assuré qu'il y ait suffisamment d'eau et de nourriture à bord des navires pour que si jamais les choses devaient durer plus longtemps, on ait amplement de réserves en eau et en nourriture à bord du bateau. Alors, c'est pas du tout un problème. Puis, comme je le mentionnais, ce qui est important pour les marins à bord des bateaux, c'est être capable de continuer à maintenir un lien avec la famille. Et ça, ils sont en mesure de le faire. Alors que dans d'autres secteurs du Golfe Persique, c'est impossible parce que les signaux sont effectivement à jamais, comme on dit.
Oui. OK. Puis ça, c'est le genre de situation où vous avez, bon, pas nécessairement toujours la possibilité de les prévoir. Nous, on ne pouvait pas le prévoir non plus. Mais au niveau de l'eau et de la nourriture, vous devez avoir des réserves toujours dans ce genre de navire-là, pour quelque raison que ce soit.
On est toujours dans une situation où on prévoit ce qui peut arriver. Alors, on peut penser, par exemple, à un navire qui va faire un long transit, qui va partir, présumons, de l'Amérique du Nord, il va aller en Asie. Alors, lorsqu'on fait la planification des provisions et de l'eau à bord, on se garde toujours une réserve de plus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver des avaries, il peut arriver des mauvaises températures, donc le voyage est plus long. On prévoit toujours ce genre de choses-là, mais on ne prévoit pas de situations comme celle qu'on vit présentement. Mais fort heureusement, on était en mesure de s'assurer rapidement là, qu'on avait des réserves importantes à bord du bateau en matière d'eau et de nourriture.
Notre dernière question pour vous, M. Le Guélec. Vous avez le Rosaire à dégagner, on l'a dit, et le Miena à dégagner, deux navires qui sont transporteurs, donc qui sont pour des compagnies de transport. Il y a des colis à l'intérieur, il y a des choses à livrer, il y a du commerce. Vous vous spécialisez dans quoi? Est-ce que ça peut aussi couper une chaîne d'approvisionnement?
Ben écoutez, ce qu'on a comme cargaison à bord, c'est de tout genre. Des cargaisons qui sont utiles pour des gens, par exemple, qui sont des industriels. Ça peut être des gens qui attendent du mobilier, du matériel de construction. Alors, c'est sûr que lorsqu'il y a des bris comme ça en approvisionnement, ça a un impact sur la chaîne logistique. Moi, je vous invite à regarder là où vous êtes, l'ensemble des équipements qui sont autour de vous. Il est fort possible qu'ils sont tous arrivés chez vous par bateau. Les gens l'oublient, mais effectivement, on transporte énormément de matériel par navire. Et par conséquent, quand un événement comme ça survient, bien, c'est clair que ça a un impact sur les chaînes logistiques.
Merci beaucoup, Serge Le Guélec. On se reparle certainement dans les prochains jours. On va essayer de suivre ça de façon assez serrée. Vous êtes représentant du groupe Dégagné, conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir reçu. Bonne journée.
Bonne journée. Mathias, c'est fascinant. On sait que ça existe. On sait que des gens qui font affaire et qui roulent pas mal de business par ce canal-là, par le Golfe Persique. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu stagnation dans le temps de la COVID, puis ça avait créé des remous économiques pendant plusieurs mois. Il y en a même qui ne sont pas remis officiellement de tout ça. Mais savoir qu'il y a des bateaux québécois qui font justement ce genre de commerce-là et qui sont à risque, il ne dit pas de façon claire, nette et précise. Ils tournent autour parce qu'ils sont en certaine sécurité. Mais une fois qu'ils se déplacent, ces navires-là, puis qu'ils s'en vont dans la zone de guerre, on ne sait jamais ce qui peut arriver en ce moment. On le voit qu'il n'y a personne qui, finalement, a une tête au niveau de la conversation politique qui est comme on a vu auparavant.
Bien, dans le secteur du Moyen-Orient, en général, il n'y a pas d'endroit... Il y a des endroits plus sécuritaires, mais il n'y a pas d'endroit sécuritaire à proprement parler. Mais... c'est fou parce que souvent on voit ces nouvelles-là qui sont en Iran, qui sont loin. Puis on regarde ça, puis on se dit « Ah, OK, c'est loin, on n'a pas de stress de ce côté-là, ça nous atteint pas directement. » On a comme l'impression que ça se répercute pas nécessairement dans notre cours. Mais quand on parle à des entreprises québécoises qui ont des navires pris là-bas, quand on se rend compte qu'il y a des proches présentement qui ont des amis, de la famille... qui sont pris là-bas, ben on se rend compte que c'est pas pour rien qu'on traite autant de cette situation-là dans les médias actuellement.
Puis on va suivre le dossier, je trouve ça fort intéressant. C'est un peu entre, je veux pas dire le voyeurisme, mais en même temps, on veut s'immiscer, on veut avoir les deux pieds dedans, puis surtout comprendre c'est quoi la situation, puis le manque de sécurité à ce niveau-là.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
On l'a dit, Mathias est allé du côté du point de presse du maire Marchand, donc Bruno Marchand, maire de Québec, au sujet de l'avenir de Saint-Roch. Tu as de l'information, mais est-ce que tu peux nous dire si on semble avoir un air d'aller? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de structuré, quelque chose de clair pour Saint-Roch?
Bien, je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'était justement de structurer la chose parce qu'il y a certains projets, notamment le Stade Canan, qui a un investissement de 20 millions. Ça va être jusqu'à 2028, mais c'est un projet qui était déjà enclenché. C'est un projet qu'on savait déjà qu'il existait. Mais là, l'objectif, c'est de mettre tout ça dans un plan d'action sur... 4 ans, donc de 2026 à 2029, pour vraiment savoir concrètement. On a une enveloppe de 80 millions qu'on dispose justement pour Saint-Roch, des infrastructures et tout. Comment on va utiliser cette enveloppe-là? À quoi que ça va servir? Puis comment qu'on va refaire naître Saint-Roch?